Un dimanche de campagne de retour ce soir, car vous l'avez tous noté, dès le soir du second tour de la présidentielle, dimanche dernier, la campagne des législatives était lancée.
Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Pas d'état de grâce pour le président réélu, même si Emmanuel Macron rêve d'un répit en attendant les législatives.
Donc je pense qu'il faut terminer d'abord ce mandat. Donc on est dans une phase, si je puis dire, de décantation.
Comment le chef de l'État prépare-t-il la suite? Comment les oppositions tentent-elles de s'organiser pour les législatives? Où en sont les négociations? Eh bien, elles avancent. À gauche, poignée de main lors du cortège du 1er mai entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, lequel tente de rassurer François Hollande qui s'inquiète d'une disparition du PS.
Si François Hollande veut venir négocier avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il vienne, il verra qu'il ne s'agit pas d'une disparition de qui que ce soit.
On va faire le point sur tous ces sujets avec la semaine politique de Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission. À nos côtés, plusieurs journalistes politiques qui suivent tout cela de très près. Sophie de Ravinel, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Vous suivez la gauche pour Le Figaro et vous arrivez justement du défilé du 1er mai à Paris. Ludovic Vigogne, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Vous suivez la droite et la droite de la Macronie pour le journal L'Opinion. Élodie Forêt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez l'extrême droite pour France Inter. Yael Gauz, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Vous suivez un petit peu tout puisque vous êtes le chef du service politique de France Inter. Pas de Bobineau de Thomas Legrand ce soir, il a bien mérité quelques jours de congé. Olaïc Citoyen avec une nouvelle voix ce soir, Alex Darmon, bonsoir.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Youtubeur politique, vous nous raconterez comment les réseaux sociaux ont vécu le deuxième tour et comment ils ont suivi cette journée du 1er mai. Un dimanche de campagne, c'est parti avec Fred Milano à la réalisation et Nicolas Delmas à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Un 1er mai très politique, pour ne pas dire électoral cette année. La présidentielle est certes passée, mais les législatives sont déjà dans toutes les têtes, comme si la prolongation du bail d'Emmanuel Macron à l'Élysée n'avait pas réglé tous les problèmes. C'est en tout cas ce que l'on a entendu aujourd'hui dans les défilés du 1er mai, comme ici à Paris, où Jean-Luc Mélenchon a pris la parole, comme il a l'habitude de le faire devant ses troupes.
Attendez-vous à ce que ce soit compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi. Et pour le mot, ils savent que nous sommes capables de gouverner le pays. Ils savent que les gens n'ont pas encore envie de souffrir comme ils ont souffert et comme on leur annonce qu'ils vont encore souffrir si jamais M. Macron et ses amis retrouvent la majorité. Le pays sait qu'il a avec nous une grande force sociale.
Jean-Luc Mélenchon dans le défilé parisien, tout comme Olivier Faure avec qui les négociations se poursuivent, on y reviendra. À l'extrême droite, les traditions du 1er mai ont tendance à se perdre. La famille Le Pen n'est pas allée honorer Jeanne d'Arc comme elle avait l'habitude de le faire. C'est Jordan Bardella qui s'en est chargé. Marine Le Pen, qui était en vacances depuis le soir du second tour, est sortie de son silence aujourd'hui. Elle l'a fait dans une vidéo où elle a parlé valeur travail, pouvoir d'achat, retraite et législative.
La défense du travail et du pouvoir d'achat a été l'un des piliers de mon projet pour la France, vous le savez. Alors qu'Emmanuel Macron ne cherche qu'à préserver les intérêts de quelques privilégiés en aggravant les injustices sociales et fiscales. Les 12 et 19 juin prochains, vous déciderez quels députés siégeront à l'Assemblée nationale. Avec un maximum de députés qui me soutiendront au Parlement, je serai en mesure de protéger votre pouvoir d'achat et de porter des mesures qui reconnaissent enfin le travail à sa juste valeur.
Voilà pour ces deux déclarations, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de Marine Le Pen, qui ont marqué ce 1er mai. Alors, dimanche, sur le Champ de Mars, Emmanuel Macron avait reconnu qu'une partie de ceux qui ont voté pour lui l'avaient fait pour faire barrage à Marine Le Pen et non par conviction. Cela m'oblige, avait-il dit. Ça l'oblige à quoi, précisément, Yael Gauz, à entendre notamment ces manifestants du jour?
Oui, j'ai l'impression que ce 1er mai est passé un petit peu sous le nez d'Emmanuel Macron et de l'Élysée, qui temporise, on l'a entendu lors de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées, où il a dit je veux la concorde, on revient au calme, il y a eu des élections, ça a bousculé pas mal les consciences, maintenant on se pose, j'ai le temps jusqu'à mon investiture. 13 mai, minuit maximum, c'est le délai pour l'expiration du quinquennat finissant d'Emmanuel Macron. Sauf que en ce 1er mai, qui n'était pas un jour où la majorité allait forcément prendre la lumière, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est entré en scène de manière assez
spectaculaire,
on va y revenir, Jean-Luc Mélenchon, qui est en campagne législative. C'est le premier 1er mai depuis 1974 qui n'a pas lieu entre les deux tours d'une présidentielle. Autrement dit, c'est vraiment un 1er mai, acte 1, premier dimanche de campagne législative. Et là, on a Jean-Luc Mélenchon qui a clairement occupé le terrain avec des négociations, on y reviendra, à gauche, qui sont en train de progresser et peut-être même de se finaliser. ce qui sera là aussi un événement marquant. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron tout seul réélu, mais qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de Premier ministre, dont la majorité ne sait pas encore sur quel pied danser, quelles seront les différentes chapelles réunies ou pas sous quelle bannière unique. Donc voilà, il y a une accélération.
Et dont la politique est contestée malgré ce résultat de la présidentielle, c'est surtout ça.
Exactement. Et donc, qui n'a pas donné l'impulsion encore avec la nomination d'un Premier ministre qu'on attend. Donc dans l'expectative, un peu dans les limbes, un peu en hauteur, et une Marine Le Pen qui, elle, était complètement au vert, absente pendant 5 jours. Et voilà, deux acteurs majeurs dans les 3 blocs dominants de ce premier tour, de cette présidentielle 2022. Deux acteurs absents et un surprésent, hyper présent, Jean-Luc Mélenchon.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon que vous avez vu cet après-midi, Sophie de Ravinel, je le disais, vous étiez du côté de la République et de la Nation, où il y a eu donc ce défilé traditionnel, théoriquement, du 1er mai, sous la bannière des syndicats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait une OPA sur cette manif du 1er mai, en gros?
Ou disons, sur une première partie de ce défilé, avant que les violences ne viennent occuper un petit peu le terrain. En tout cas, c'est vrai que la politique, cette année, a pris le pas sur les centrales syndicales. C'est évident pour ce défilé du 1er mai. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon en priorité, en tête, puisqu'il était avec 21,95% le soir du 10 avril. Et d'ailleurs, sur le terrain, sur cette place de la République, c'est lui qui a parlé en premier. Alors, moi, j'étais là avec tous les militants insoumis, alors sous les bannières de l'Union Populaire, qui est cette sorte de très grand rassemblement, souhaité en tout cas par les insoumis, pas encore complètement rallié, parce qu'on ne sait pas si ce sera le nom au final du rassemblement, si le rassemblement il devait y avoir. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon a parlé en premier. Tout le monde disait Jean-Luc Mélenchon, chef du gouvernement. Enfin, il y avait des slogans, ils étaient en train de chercher les bons slogans pour les semaines qui viennent. Et lui, il a un peu électrisé les foules, il a dit nous sommes à quelques millimètres de l'accord, alors maintenant nous sommes sans doute à moins d'un millimètre de cet accord.
Alors ça, on y reviendra sur
on l'accord. On y reviendra, mais de fait, il a réussi son pari. Et là, on est très loin de 2017, de ce temps où il avait pris son temps, et d'ailleurs, ça lui a été beaucoup reproché à gauche pour dire qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen, de ce temps où il ne savait pas trop s'il avait envie de prendre la tête de cette union de la gauche, ou plutôt d'une union populaire. Et uniquement ce populisme. Il a tourné la page, il a réussi son pari qui était d'impulser ce troisième tour et sur le point d'être réussi, mais il reste encore quelques semaines de campagne.
Effectivement. Ludovic Vigogne, sur cette image du 1er mai, sur ce que disaient Yael Gauz et Sophie de Ravinel, on a l'impression que c'est comme si la présidentielle n'était pas tout à fait achevée, ou je me trompe?
Non, il y a cette idée que les législatives peuvent être un troisième tour, et donc certains des acteurs qui veulent à cette occasion prendre leur revanche. On a bien vu à quel point, dès le soir du second tour, les législatives étaient sur toutes les lèvres. On a vu à quel point Marine Le Pen avait lancé la bataille dans un discours très offensif, malgré sa contre-performance. Elle a fait un score quand même bien moins bon qu'elle veut le laisser croire. Et puis on a bien vu comment Jean-Luc Mélenchon arrive à maintenir la dynamique. On est tous surpris par ce qui se passe à gauche. On se souvient comment les qualificatifs étaient violents les uns vis-à-vis des autres. On se souvient de ce que disait par exemple Anne Hidalgo, Anne Gigado à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, l'impossible semble en train de se réaliser, avec sans doute des conséquences électorale le 12 et 19 juin, et puis aussi des conséquences partisanes. Hein. Qu'est-ce que va devenir le PS? Qu'est-ce que vont devenir Europe Écologie Les Verts? C'est assez étonnant ce qui est en train de se passer.
En tout cas, on voit bien qu'on reste dans une dominante sociale. Pourtant, Emmanuel Macron était dans les Hautes-Pyrénées, je crois que c'était vendredi, et il a dit espérer mettre en place sa réforme des retraites à l'horizon début d'année 2023. Il reste sur sa lancée. Élodie Forêt, il y a donc eu aujourd'hui du côté de l'extrême droite cette vidéo de Marine Le Pen qu'on n'avait pas entendue depuis
lundi. Lundi, elle était à son QG où elle a tenu des réunions, donc on avait eu quand même des échos, mais effectivement, on ne l'avait pas entendue depuis dimanche soir.
Donc là, elle apparaît sur fond de bambou et le discours, c'est social toute.
Oui, c'est plutôt elle reste sur même méthode, même thème, voilà, elle continue sa campagne sur quelque chose qui alors effectivement a peut-être apporté un peu moins de voix qu'espéré, parce que dans leur tête, ils imaginaient plus à 44 qu'à 41. Mais bon, soit dit en passant, ça l'a emmené au second tour. Et moi, ce que je trouve intéressant quand même aujourd'hui avec ma petite lorgnette de rubricard de extrême droite, c'est le contraste avec ce qu'a fait Éric Zemmour, qui a posté lui aussi une vidéo on l'avait pas vu depuis une semaine non plus à Aix-en-Provence, avec des militants à lui en train de jouer à la pétanque avec Stéphane Ravier, complètement hors sol. Et je trouve que ce contraste-là avec une Marine Le Pen qui certes est devant ses bambous, quelque part en vacances, certainement chez elle à la Trinité, c'est pas tonitruant, mais bon, elle réinstalle son duel face à Emmanuel Macron, elle martèle son message, il faut installer des députés RN, elle reprend valeur travail, pouvoir d'achat. Bon, voilà, pas de fausse note par rapport à Éric Zemmour qui est, je sais pas. C'est
alors ça, on reviendra
tellement
peut-être
étrange
sur Éric Zemmour, mais encore un mot sur les traditions du 1er mai de l'extrême droite.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, Jeanne d'Arc n'est plus l'héroïne du Rassemblement National comme elle l'était pour le Front National.
Ben, ça fait quelques années.
On a tout revu à la baisse là aujourd'hui.
Oui, ben ça fait quelques années qu'elles sont en détache. Il y a plus de défilés. Le dernier défilé c'était en 2015. C'était, vous savez, le l'année où Jean-Marie Le Pen est venu alors qu'il n'était pas invité et qu'il a crié Jeanne au secours avec son manteau rouge. Enfin, on se rappelle bien de ces images. Depuis, il n'y a plus de défilé, mais effectivement, elle a toujours au moins déposé une gerbe, fait quelque chose en rapport avec Jeanne d'Arc. Là, elle le fait pas. Je trouve qu'il y a deux significations. Il y a à la fois quelque chose qui dit qu'elle n'a pas forcément envie aujourd'hui de reprendre la présidence du parti et qu'elle laisse finalement ce rôle-là à Jordan Bardella. Et le deuxième, c'est effectivement une histoire de normalisation. Elle se détache autant que possible de quelque chose qui ramène toujours aux images du Front National. Et je sais qu'en interne, plusieurs cadres nous ont dit qu'ils aimeraient bien que tout ça aille aux oubliettes. Enfin, ils l'ont pas fait forcément de gaieté de cœur d'aller ce matin devant la statue.
Alors on reparlera des législatives pour l'extrême droite comme pour les autres formations. Alex Darmon, un petit mot. Élodie Forêt nous parlait donc des deux vidéos aujourd'hui d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Vous avez surveillé les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu surtout c'est le relais de ce qui se passait du côté de Jean-Luc Mélenchon?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont volé cette fête du travail aux syndicats. Les syndicats sont absents des réseaux sociaux toute la journée, sur Instagram, sur Twitter. Déjà qu'ils sont pas très présents de base. Là, c'est encore plus frappant. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est une stratégie préparée par la France Insoumise. Parce que vous avez le discours qui est de Jean-Luc Mélenchon diffusé sur Twitch. Hein, Twitch, c'est la plateforme avec les gamers. C'était préparé. Et vous avez une stratégie en deux façons. D'abord, le discours sur Twitch. Et de l'autre côté, après, vous avez les tweets et les paroles un peu officielles sur Twitter de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, les deux. Et après, sur Instagram, vous avez tous les élus, les jeunes candidats aux élections législatives de juin prochain qui mettent des vidéos d'ambiance, qui montrent que ça se passe bien, qu'on danse, que c'est sympa. Bref, c'est vraiment travaillé. Sincèrement, c'est très bien joué de leur part parce que finalement, ils prennent le hashtag sur Twitter « Faites du travail » ou 1er mai, et il l'accompagne de Union Populaire, de Mélenchon, hashtag Mélenchon Premier Ministre, et c'est retweeté, ça partage et ça marche.
Est-ce que vous nous avez toujours dit, hein, Sophie de Ravinel, ils sont très forts sur les réseaux sociaux du côté de la France Insoumise?
Absolument, ils sont très très forts, et là en plus, j'allais dire, il y a une petite revanche de Jean-Luc Mélenchon, y compris vis-à-vis de la CGT, qui a largement soutenu Fabien Roussel pendant cette campagne présidentielle, et donc là il y avait une petite envie aussi de s'imposer, d'exister, d'être là, alors que justement, ce qui bloque un tout petit peu, semble-t-il, dans ces accords, c'est peut-être les communistes, justement, parce que on dit, ben voilà, Fabien Roussel, il était ce matin à Valenciennes pour marcher, il n'était pas place de la République, c'était le seul des quatre à ne pas être là. On se souviendra sans doute de cette journée avec la photo historique d'Olivier Faure, donc le premier secrétaire des socialistes, serrant la main de Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel n'est pas là. Alors on me dit, on me glisse dans l'oreillette, ça va pas durer longtemps, c'est pas les communistes qui peuvent bloquer. Il n'empêche qu'il y a un petit ressentiment entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, et qui est aussi lié évidemment à leur histoire, parce que Fabien Roussel est un orthodoxe. Il fait partie de ceux chez les communistes qui ont toujours détesté l'accord avec Jean-Luc Mélenchon.
Yael Goz.
Oui, effet de surprise numérique, disait Alex, et effet de surprise physique très très simple. C'est-à-dire que ce qui était annoncé, c'était rendez-vous au croisement Magenta-République à 13h30. Vous verrez Jean-Luc Mélenchon avec une banderole « Un autre monde est encore possible ». Et en fait, c'est devenu un meeting. Il y avait une tribune entourée de ses plus jeunes députés, valeurs montantes un peu des insoumis. Et là, discours d'une demi-heure pour préparer la suite. Et ça, c'était pas forcément ce qui était attendu journalistiquement.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message, il est très clair pour Emmanuel Macron. Ça va être social.
C'est-à-dire que ce 1er mai aurait pu être pour Jean-Luc Mélenchon un jour où on dit « Il n'a pas réussi l'union de la gauche ». Et donc les éditorialistes auraient dit, bah voilà, encore raté. Et ils créent l'attente en disant, c'est imminent, donc le 1er mai a lieu sans défilé commun, à gauche. Hein, Fabien Roussel, il est à Valenciennes, il n'est pas à Paris, par exemple, pour les communistes. Et finalement, l'événement devient, c'est brûlant, ça va arriver, quoi.
Sophie de Ravinel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, ça va arriver sans doute dans les heures qui viennent. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir quelque chose. Je pense qu'il peut y avoir quand même des dissidences. Et c'est ça, chez les socialistes, qui va sans doute un petit peu tempérer l'enthousiasme. Et ça, on en parlera peut-être, mais ça va en tout cas moduler la possibilité sans doute pour la gauche, pour cette union de la gauche si elle est confirmée, d'atteindre cette espèce de score de Graal de 289 circonscriptions.
Alors ça, on va évidemment y revenir, mais et d'abord la suite d'un dimanche de campagne avec l'actualité politique des derniers jours.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle toujours sur cette campagne qui n'est plus une campagne présidentielle, pas encore officiellement une campagne législative. C'est la campagne d'entre deux campagnes, celle où on remet les pendules à l'heure.
Je pense qu'il faut qu'il dégonfle sa tête, qui est énorme, et qu'il arrête d'insulter les gens. Parce que, pour une première, lui, on ne peut pas dire qu'il est brillé.
Louis Alliot, très remonté lundi matin sur la Terre, vous l'avez compris, il s'en prenait à Éric Zemmour, qui s'en était pris lui-même dimanche soir à la famille Le Pen. À gauche, ça flingue aussi, après les 1,7% d'Anne Hidalgo, le PS est en PLS. Preuve en est, François Hollande a adressé un petit message confraternel au patron du parti, Olivier Faure, jeudi matin, chez nos amis de France Info.
Il y a eu un défaut d'incarnation, un parti politique, ou une candidature, c'est une incarnation. Le Parti Socialiste est sans incarnation. Je parle de la direction du Parti Socialiste.
D'Olivier Faure.
Un chef se présente d'abord devant les électeurs. Il y avait des élections européennes, des élections régionales. Il faut entraîner les autres.
Chez les écolos, même topo. Absence d'ambition du projet de la candidature. On singe Macron, on s'excuse d'être écolo. Julien Bayou en avait gros sur la patate. Et il s'est servi d'une boucle de messagerie interne pour dire le fond de sa pensée sur la campagne de Yannick Jadot, un candidat qui n'a pas encore totalement décuvé.
Oui. On va pas se cacher, c'est une sale gueule de bois.
Le vent souffle sur cette entre deux campagnes et il n'épargne évidemment pas la droite. Et à droite, on se pose une question existentielle, être ou ne pas être macroniste.
Le problème, c'est que si nous voulons systématiquement nous opposer de façon radicale, nous serons broyés par des gens beaucoup plus radicaux que nous.
Voilà, vous l'avez compris, Jean-François Copé a choisi son camp, il souhaite une alliance avec Emmanuel Macron. Eh bien venez, leur répond Bruno Le Maire.
Au bout de 5 ans... Il devrait quand même avoir compris. Et il devrait avoir l'honnêteté, la lucidité de se dire, dans le fond, notre place est à ses côtés et pas contre lui.
Malgré cette incitation aux accents de VRP, tous les élus LR ne partagent pas cet avis. C'est le cas, par exemple, de François-Xavier Bellamy. Le député européen ne veut pas d'un grand rassemblement et suggère plutôt à tous ceux qui soutiennent Emmanuel Macron de le rejoindre officiellement. Un message qui s'adresse aussi à la figure tutélaire de son parti.
Nicolas Sarkozy a construit son parcours politique sur l'idée qu'il fallait assumer ses choix. J'ai le plus grand respect pour Nicolas Sarkozy, mais il faut que chacun fasse des choix qui soient clairs.
Le vent souffle sur cette entre deux campagnes et nous fait entendre un autre affrontement, cette fois entre deux camps, les partisans d'Emmanuel Macron et ceux de Jean-Luc Mélenchon. Les premiers aimeraient savourer leur victoire, ou en tout cas qu'on ne cherche pas à minimiser la performance du président réélu. C'est le cas de Gabriel Attal.
Et moi j'avoue avoir été assez surpris d'entendre des candidats qui en étaient à leur troisième défaite à l'élection présidentielle indiquer à celui qui avait gagné pour la seconde fois qu'il avait perdu. D'entendre des candidats faire mine de déplorer ou de regretter un niveau d'abstention au deuxième tour, alors même qu'ils ont passé l'intégralité de l'entre-deux tours à expliquer que le deuxième tour n'existait quasiment pas et qu'il fallait déjà se projeter sur la suite.
Dans l'autre camp, effectivement, ne comptez pas sur les vivas de la foule en délire. Manuel Bompard encourage plutôt à coller des affiches Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre.
Celles et ceux qui nous écoutent, je leur dis non, c'est pas vrai, la bataille n'est pas terminée, le combat n'est pas fini. Et il y a un troisième tour, et le troisième tour, c'est effectivement ces élections législatives. Et si on a fini troisième au premier tour, on peut tout à fait finir premier au troisième tour.
Voilà, vous aurez tout compris. Une voix dissonante à gauche tout de même, le punchliner de l'élection présidentielle a gardé de sa verve. Fabien Roussel regrette la tournure prise par cette après-présidentielle et cette pré-législative.
Nous qui luttons pour une nouvelle République, contre le présidentialisme des élections, je regrette qu'on présidentialise aussi l'élection législative, que l'on présidentialise à ce point le Parlement.
Sans le citer, on comprend que le patron des communistes vise Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, celui-ci se défend de toute velléité de chefferie hégémonique.
Qu'est-ce qui a bien pu leur mettre dans la tête que j'avais envie d'être leur chef ? L'affiche est absolument incroyable, j'ai vu que même ça on le critiquait. Et j'ai envie de dire à ceux qui me font des reproches, appliquez-les-vous à vous-même. Quand vous serez candidat à la députation, ne faites pas d'affiche avec votre figure dessus, ça pourrait présidentialiser.
Pour finir, et toujours à propos de chef, il y en a une dont on dit qu'elle pourrait devenir chef, mais qui répond qu'elle ne veut pas devenir chef, c'est Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie.
Je n'ai fait d'offre de service à personne, je ne suis pas à vendre, et je suis une femme de gauche, je n'ai rien demandé, et si jamais il m'était proposé d'appliquer le programme d'Emmanuel Macron, je dirais non.
L'occasion pour moi de vous citer Cazet, mon mode de vie n'est pas à vendre, mon rap n'est pas à vendre. C'est ce que je pense ou je dis n'est pas à vendre. Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Un dimanche de campagne, toujours avec Sophie de Ravinel, Ludovic Vigogne, Élodie Forêt, Yael Gauze et Alex Darmon. Allez, on va parler des négociations à gauche, parce que c'est quand même la grande affaire de la soirée. Nous sommes à quelques millimètres de nous entendre tous, a dit Jean-Luc Mélenchon lors du défilé tout à l'heure, en ajoutant le 3 mai à la mémoire du Front Populaire. Nous aurons signé et nous aurons une nouvelle Union Populaire. Sophie Dravinel, il a raison d'être optimiste. Il peut y avoir un accord dès ce soir ?
Oui, il y aura sans doute un accord dans la nuit, peut-être même dans les avant la nuit, avant que la nuit tombe. Mais bon, ça continue à négocier. Il y a de nouveau des canaux entre les écologistes, les socialistes. Ils ne veulent pas donner le sentiment qu'ils sont bradés, qu'ils sont à vendre, comme le disait très bien Cyril Lacarrière, Carole Delga. Ils ne sont pas à vendre. C'est un accord, j'en ai parlé avec Julien Bayou, j'en ai parlé de nouveau avec Olivier Faure, les interrogeant sur les oppositions internes et sur ceux qu'on entend beaucoup, les sociodémocrates qui ont rejoint Emmanuel Macron et qui sont très hostiles, évidemment, parce que le champ se déplace. Et disent non, mais en fait, sur l'Europe, nous sommes tous d'accord, nous ne sommes pas pour une sortie de l'Europe. Sur l'OTAN, c'est reporté, il n'y a pas de souci, il n'y a plus aucun souci. On dirait que tout ce qui s'est passé pendant la présidentielle n'existe plus, comme un autre temps, comme un autre monde. On va bien voir combien de temps ça dure.
Alors, vous parlez d'Olivier Faure, il a répondu tout à l'heure sur France Inter, c'était à la mi-journée, à François Hollande qui avait estimé que c'était pas des discussions, mais que c'était quasiment la disparition du Parti Socialiste. On va réécouter le premier secrétaire du PS.
Si François Hollande veut venir négocier avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il vienne, il verra qu'il ne s'agit pas d'une disparition de qui que ce soit, et que personne ne se soumet à personne, et qu'il y a bien une volonté d'aboutir en commun à un projet qui, au contraire, renoue avec la grande histoire de la gauche, celle des conquêtes. J'aimerais comprendre quel est le plan de François Hollande. C'est quoi le plan B, en fait, pour lui? C'est quoi l'histoire qu'il veut nous raconter? Est-ce que c'est simplement dire, bon ben, le mieux, c'est de laisser, en fait, Emmanuel Macron gouverner?
Voilà, c'était Olivier Faure à la mi-journée, Yael Gauze. Il tente de rassurer, je sais pas s'il va y parvenir.
C'est très important ce qui se passe en ce moment au Parti Socialiste, parce qu'on pourrait presque parler d'un schisme générationnel en train de se creuser, de s'affirmer. Pourquoi je dis ça? Vous avez un sondage IFOP du jour qui montre que 49%, donc la plupart des 18-24 ans, 49% veulent une victoire de la gauche unie en juin aux législatives. 18-24 ans. Ensuite, c'est Emmanuel Macron à 24... pardon, pas Emmanuel Macron lui-même, mais la majorité, les partis, le bloc central, à 24%. Puis après, c'est en dessous. Donc là, vous avez un enjeu, quelque part, d'avenir même pour un parti politique qui, à l'image des LR, où les cheveux blancs sont de plus en plus nombreux, doit se poser la question de la durabilité du parti. Combien de temps ça peut tenir comme ça quand on est à 1,75% des voix à une présidentielle? Donc ce qui se passe maintenant, c'est ça en fait. Vous avez un Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste qui peut pas considérer que son parti puisse rester au bord du chemin alors qu'il y a 22% du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et sur cette alliance qui est en train de se nouer, on verra à quel moment la fumée vert rouge d'abord,
oui, hein, évidemment. Si c'est,
à quel moment ça, violet, ça sort cette nuit, ouais. Ça fait du violet.
C'est la couleur de l'Union Populaire d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon.
Et une fois que vous avez cet axe qui est cranté entre EELV et LFI. D'ailleurs, c'est très intéressant historiquement, parce que le programme commun de la gauche, au départ, c'est PS et PC, dans les années 70. Là, vous avez un renversement qui montre bien que 40-50 ans après, on est passé complètement à autre chose. C'est deux autres partis de gauche nouveaux, émergents, EELV et LFI, qui vont lancer la machine. Derrière, le PS et le PC peuvent pas rester en dehors de cet accord. D'autant que Jean-Luc Mélenchon l'a redit à République tout à l'heure, promet bien un groupe parlementaire pour chaque, et le nerf de la guerre, on en parle peu, mais c'est très important, une association de financement autonome pour chaque. Donc il n'y a pas d'histoire de socialiste.
Mais pas tous derrière le drapeau de...
Un député, c'est 37 000 euros par an. 37 000 euros par an, plus le nombre de voix, 1,60 euros par voix en gros, réalisé pour le parti politique qui avait donné l'étiquette. Donc qu'est-ce qui va se passer là? Il faut bien que chacun ait son financement derrière, et ça, c'est ça l'enjeu de l'accord, il est aussi là-dessus, sur le nombre de nos circonscriptions, pour être sûr de pouvoir aussi continuer à bénéficier plus tard du financement de la vie partisane par l'État dans les 5 années qui viennent. Donc ça, c'était un des préalables nécessaires pour l'accord, et c'est levé d'après ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
Ludwig Wiegand.
Oui, deux éléments. D'abord, il y a une partie du PS, Olivier Faure en tête, qui acte la tripartition de la vie politique française et que pour survivre, il faut faire partie d'un bloc. Par exemple, c'est pas du tout le choix que font les Républicains. Les Républicains, ils affichent un seul mot, c'est indépendant. Sauf qu'ils ne font partie d'aucun des trois blocs et donc il y a le risque de disparaître. C'est pas le choix que fait Olivier Faure, quitte à renier l'étiquette de parti gouvernement qu'avait le PS et avec les conséquences que ça peut avoir. Le deuxième élément, c'est qu'à mon sens, si ça c'est aussi possible, c'est parce que celui qui est la figure de ce rassemblement, Jean-Luc Mélenchon, c'est la fin pour lui. Il a dit faites mieux le soir du premier tour et que donc il va, quelle que soit l'issue des législatives, s'il gagne, bon, il sera Premier ministre. Aujourd'hui, on en doute. Et s'il perd, petit à petit, il va se retirer de la scène. Et donc, il y a une place qui va se dégager. Aujourd'hui, les créneaux politiques, ce sont les personnalités qui les dégagent. C'est parce que vous êtes une personnalité qui incarne que vous avez un espace. Voilà. Et il y a un espace qui va se dégager à gauche. Et donc, c'est ça aussi qui se joue. On se dit sans doute, chez les socialistes, chez Europe Écologie Les Verts, qu'une fois Jean-Luc Mélenchon parti, il y aura de l'espace. On pourra reprendre l'incarnation au sein de ce pot-là, de ce bloc.
Et lui aura laissé une trace, pour le coup, dans l'histoire de la gauche. Hein,
absolument, ce dont il rêve, puisqu'en fait, on pourrait presque écrire un roman sur Jean-Luc Mélenchon, 2005-2022. 2005, c'était le traité de l'Union Européenne, le non, le oui, et vraiment le basculement à gauche au sein du Parti Socialiste, et au sein de cette gauche qu'il habitait à l'époque au sein du Parti Socialiste. Mais moi, je dirais qu'il n'est pas encore parti. Et que, effectivement,
d'ailleurs, est-ce qu'il sera candidat?
Alors, c'est une question, j'ai essayé de creuser ça longtemps, de façon à Marseille, on me disait mais non, il ne va pas revenir. Ensuite, il a dit au JDD, mais si j'y vais, ce sera à Marseille, pourquoi pas. Ils m'ont mis plus de 50%, voilà. Moi, je me demandais s'il n'allait pas se présenter à Paris. On me laissait entendre qu'il en avait un petit peu assez, peut-être des allers-retours vers Marseille. Alors Paris, pourquoi pas? Ou pourquoi ne pas du tout se présenter? Puisque de toute façon, vu le succès de cette journée d'aujourd'hui, si jamais l'accord se noue effectivement, il va aller faire campagne partout. Il profite de ce moment de façon un peu folle. Et je suis curieuse de savoir à quel moment il va lâcher la main. Et effectivement, en fonction évidemment du résultat des législatives, et très justement, la bataille pour la succession ensuite va s'engager.
À minima, il sera président de la Fondation La Boétie.
Voilà,
qui a été mise. C'est un nouveau think tank qui doit qui s'accélérer prochainement un petit peu.
Absolument, et qui va s'occuper de la formation des cadres des Insoumis.
Est-ce que c'est possible de ne pas être candidat tout en disant « je veux être Premier ministre » ?
Il le dit que oui. Il dit ça, que Jean Castex n'était pas député, que d'autres... voilà. Techniquement, c'est pas impossible. Rien ne l'empêche. Évidemment, je pense que moi, j'ai du mal à imaginer qu'il se prive volontairement de cette possibilité de tribune qu'il a à l'Assemblée et qu'il occupe tellement avec un certain talent. Je pense que c'est beaucoup une équation personnelle et que la réponse sera peut-être liée aussi à son état de fatigue ou à son envie de laisser la main. Mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment d'unité derrière lui. Et c'est ça un peu la complication.
Alex Darmon.
Moi, je suis frappé, en fait, depuis le début de l'émission, on parle de Jean-Luc Mélenchon, de sa réussite sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais je suis frappé de l'absence des autres, en fait, de gauche. C'est-à-dire que quand vous voyez, on pensait que ça serait une bataille d'image aujourd'hui, parce que c'est le 1er mai, c'est la fête de la gauche, des ouvriers, du travail. On pensait que ça serait une bataille d'image entre, effectivement, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, mais de l'autre côté, Yannick Jadot, on n'en entend plus parler. Les Verts, on les voit pas du tout sur les réseaux sociaux. Anne Hidalgo, c'est quand même incroyable, qui était candidate du Parti Socialiste. Alors, avec le score qu'elle a fait, mais elle était candidate et elle est quand même audible, elle a une voix importante. Bah, nous tweet des images parce qu'elle reçoit les gens qui travaillent à Rungis. Enfin, c'est quand même complètement déconnecté. Tout ça. Et c'est pour ça aussi que Jean-Luc Mélenchon est en train de réussir, c'est qu'il est en train de parler et de rentrer complètement dans la campagne, là où d'autres, au Parti Socialiste notamment, eh ben on cherche juste à s'allier avec lui et à pas mettre de contre-pouvoir. Les lendemains vont être très compliqués, hein. Très compliqué. Il y a que Stéphane Le Foll qu'on a vu parler ce matin, qui dit qu'on efface ce qu'on a fait, qu'on oublie, qu'on a limite un peu honte, et je pense que le lendemain va être très compliqué au Parti Socialiste.
On laisse peut-être la gauche de côté. Vous vouliez rajouter un mot, Yael, parce qu'on
Non, ça n'ira pas tout seul au Parti Socialiste, c'est évident. Et vous avez des grands élus qui écrivent tous les jours. Il y a une tribune de 7 maires samedi, expliquant qu'il y avait un point d'achoppement majeur, c'est l'Europe. Mmh. Et la question qui se posera, c'est imaginons en juin cette gauche unie victorieuse. Dès que la question de l'Ukraine va se poser, et on dit que l'Assemblée ne traite pas de questions internationales, c'est faux. Ils ont mis ça sous le tapis pour éviter de se fâcher sur la question européenne, mais elle sera là, la question européenne, y compris dans une Assemblée où il serait majoritaire. Et là, à ce moment-là, les divergences seraient majeures. On envoie des armes lourdes ou pas à Zelensky pour sauver le Donbass ? Bonne question.
Alors, vous parlez d'assemblée majoritaire, on va quand même s'arrêter deux secondes sur ce qui va se passer les 12 et 19 juin, parce qu'il y a un mode de scrutin qui est très particulier. Ce n'est pas la proportionnelle, Ludovic Vigogne. Est-ce qu'on peut imaginer un basculement de l'Assemblée nationale pour un camp?
Très difficilement.
Autre que le camp actuel de,
très difficilement.
De la majorité En Marche.
Que Emmanuel Macron est bien parti pour avoir la majorité. Alors, quelle sera l'ampleur de cette majorité? C'est toute la question. Hein. Il y avait la semaine dernière un sondage de l'Institut Elabe qui montrait que 61% des Français souhaitaient qu'il y ait une majorité de députés hostiles à Emmanuel Macron, défavorables à Emmanuel Macron. C'était 14 points de plus qu'en 2017. Donc il faut quand même faire attention. Et Emmanuel Macron ne doit pas non plus donner le sentiment d'enjamber chez ses législatives. Et d'ailleurs, tout ce que fait aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que devra faire aussi Marine Le Pen, c'est ce que va devoir faire aussi Emmanuel Macron, c'est de ne pas laisser leur camp se démobiliser. On l'a bien vu en 2017, il y a une participation assez faible aux législatives, un peu moins de 50% au premier tour, 42,5% au deuxième tour, et que c'est évidemment les camps qui ont perdu la présidentielle qui se démobilisent, d'où ce que fait Jean-Luc Mélenchon, d'où ce que va devoir faire Marine Le Pen, mais aussi ce que va devoir faire Emmanuel Macron en choisissant un Premier ministre qui soit quand même un leader de campagne et qui impulse un souffle qui jusqu'à présent a manqué à cette réélection.
Alors à propos de ces législatives, Élodie Forêt, on entend Jean-Luc Mélenchon qui va à Sabre-Clair comme si la victoire était au bout du chemin. On sent Marine Le Pen beaucoup plus réservée, beaucoup moins vindicative dans ce qu'elle peut dire.
Je pense très lucide aussi sur ce qu'elle peut obtenir. Enfin, alors le discours officiel est il n'y a pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron, donc ça peut permettre d'avoir un grand groupe à l'Assemblée. En privé, un Jordan Bardella, par exemple, on me dit qu'il dit on n'aura pas plus de 20 députés. Enfin, si on a déjà 20 députés, c'est énorme.
On rappelle qu'il y en a, ils sont 577 en
tout. Il y en a 7 pour l'instant. En 2017,
et pour l'instant,
il y en a 7 RN.
Voilà, 7 RN. Donc leur objectif, eux, c'est d'avoir un groupe, donc au moins 15 députés, dont Marine Le Pen prendrait la présidence. Ça lui offrirait une tribune, de la visibilité, des moyens. Enfin, voilà, ça apporte tout ça d'avoir un groupe et ça lui permettrait d'incarner l'opposition, mais effectivement, je pense qu'elle est lucide sur ce qu'elle peut obtenir.
Et vous voyez l'importance de la bataille du récit dans cette campagne qui démarre, parce que Marine Le Pen est lucide, d'accord, elle sait que depuis 2002, depuis l'inversion du calendrier, une présidentielle et ensuite une législative, c'est toujours mécaniquement, avec le mode de scrutin majoritaire, le président gagnant qui a sa majorité dans la foulée, dans les semaines qui suivent.
Et en off d'ailleurs, elle l'a toujours admis, elle a toujours dit si Emmanuel Macron gagne cette présidentielle, il aura sa majorité sans problème.
Et le tour de force de Jean-Luc Mélenchon, du coup, c'est de réussir à faire croire, dès maintenant, dès le début, que c'est jouable, que rien n'est écrit d'avance, que s'il y a un bloc de gauche réuni, eh bien, ça multiplie les finales, 577 mini-présidentielles dans 577 circonscriptions, et à ce moment-là, tout est possible s'ils sont au deuxième tour. Donc c'est ça que je trouve intéressant dans cette campagne qui démarre, c'est à quel point il a préempté le récit positif. Alors que c'est historiquement jamais arrivé.
Mais la France insoumise avait déjà réussi à préempter l'opposition à l'Assemblée. Hein. Ils étaient que 17 et ils faisaient plus de bruit quasiment que LR, qui était quoi, une centaine, Ludovic Vigogne.
Mais la question, c'est est-ce qu'elle a envie de préempter ça, Marine Le Pen? Enfin, je veux dire, les mauvais esprits, ceux qui la connaissent bien, sont des fois dans des gens qui l'ont côtoyée, qui sont plus forcément de son camp, évidemment, disent qu'elle, au fond d'elle, est-ce qu'elle a envie d'avoir un groupe de 80 députés? C'est pas sûr. Il y a quand même un peu boutiquier du RN qui persiste, quoi. Enfin, donc un groupe de 15, ça va, 80, je suis pas sûr.
L'étiquette de leader de l'opposition est quand même un vrai enjeu. On a vu comment, au fur et à mesure du quinquennat, cette étiquette était passée de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Donc c'est vraiment très important pour la présidentielle qui suit.
Sophie Larrivinel.
Ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai donc croisé Jean-Luc Mélenchon, je l'ai salué, et il me dit « Ah, 81, la une du Figaro ». Et alors, effectivement... Oui, mais c'est très amusant parce que tous les deux, on venait sur Twitter et j'avais retweeté une personne qui avait rappelé la une du Figaro en mai 81 et déjà, il y avait un édito sur le troisième tour. Et évidemment, ça n'était pas la gauche, mais la droite du côté du Figaro qui disait, cet éditorial disant, bon ben voilà, on a perdu face à François Mitterrand, mais il y a ce troisième tour. Et ça a beaucoup amusé Jean-Luc Mélenchon, qui avait d'ailleurs déjà, en 2017, lancé cette idée. Mais ça n'avait pas pris à l'époque parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, il avait trop tardé, il avait pataugé, il ne savait pas trop ce qu'il préférait entre l'union de la gauche ou ce populisme qu'il avait positif, dit-il, qu'il avait mis en avant alors.
Voilà. Vous me ramenez toujours à Jean-Luc Mélenchon et je voudrais quand même qu'on dise un petit mot des autres formations politiques. Ludovic Vigogne, allez, en deux mots, du côté de LR, comment ça se passe la préparation de ces législatives?
C'est compliqué. Tous les candidats sont désignés, il n'y a plus de négociations là, mais cette campagne va être extrêmement difficile. Hein. Valérie Pécresse a fait 4,78%. Comment pour un député qui a vu sa candidate faire 4,5%, 3,5%, 6,5% dans sa circonscription, passer à 50%, c'est un vrai défi. Alors, chez LR, on se rassure en se disant que l'ancrage local, que le réseau d'élus locaux va peser, va aider. Il n'empêche, ça s'annonce extrêmement compliqué, d'autant plus que, je le disais tout à l'heure, les Républicains ne font pas partie d'un des trois blocs, et donc ça, c'est très difficile de se faire entendre, de se distinguer. Et puis ensuite, il y a des velléités de débauchage des macronistes dans les rangs des Républicains, que certains députés LR sortants sont tentés de rejoindre la
majorité. Il y a beaucoup de volontaires hein, quand même pour partir.
Oui, tout à fait, sont tentés de rejoindre la majorité présidentielle, et donc ça créera d'autres des soubresauts très compliqués durant la campagne pour les Républicains. Il y a quelque chose qu'on attend maintenant, c'est la liste des premiers noms qui seront investis par La République En Marche, par la majorité présidentielle, la première liste des candidats. Est-ce que dans certaines circonscriptions, on identifiera qu'il n'y a pas de candidat pour permettre aux députés LR sortants de se faire élire? Est-ce que, par exemple, il y aura un candidat macroniste face à Damien Abad, le président du groupe LR aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est une question à laquelle on va avoir une réponse dans les jours qui viennent et qui sera, et en fonction de la réponse, la situation sera plus ou moins compliquée pour les Républicains. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont 101 députés. On voit mal comment ils auraient 101 députés encore la fois suivante. Et ça leur permettait d'être le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils le seront encore? Là aussi, c'est un vrai enjeu pour eux.
C'est pas tout à fait certain. On va revenir sur le cas de La République En Marche dans quelques minutes quand on parlera de la suite des événements de la semaine à venir notamment, et puis de l'attente du Premier ministre. Mais un mot encore pour boucler les législatives du côté de l'extrême droite, Élodie Forêt. Pas de négociation entre le RN et Reconquête, c'est plié, ça c'est sûr et certain.
Je ne vois pas trop comment ça peut changer maintenant. Alors la seule chose qu'a émis Jordan Bardella cette semaine, c'est qu'au second tour, s'il y a des triangulaires et qu'il y a un candidat patriote qui n'est pas RN et le mieux placé, ils se désisteront. En même temps, les triangulaires en 2017, si je ne me trompe pas, il y en a eu une. Voilà, je me retourne vers Ludovic Vigogne.
Dans l'aube.
Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Non, l'alliance n'est pas possible parce que pour Reconquête, c'était une façon de survivre. Pour le RN, il y a pas de raison en fait de faire alliance aujourd'hui avec Reconquête. Et puis il y a, je pense, un instinct de revanche très fort après cette campagne qui peut pas s'éteindre là en quelques jours.
On en arrive au like citoyen. C'est avec Alex Darmon, qui est youtubeur politique. Un regard sur les réseaux sociaux dans la campagne. Alex, une semaine après la soirée électorale du second tour, peut-on dire que cette campagne présidentielle a été celle du digital, comme certains le prévoyaient?
Eh bien clair, comme dirait le Emmanuel Macron du premier quinquennat, oui et non en même temps. Hein, parce que si un large public s'est massé devant les nouveaux médias pour suivre la campagne, on apprend grâce à l'outil de veille des réseaux sociaux Visibrain que seulement 2 700 000 messages ont été postés sur les plateformes dimanche dernier. Et si je vous dis seulement, c'est parce que c'est deux fois moins bien que pour la soirée électorale du second tour de 2017. Bon, une chose intéressante à retenir quand même à 20h dimanche dernier, c'est-à-dire au moment où le visage d'Emmanuel Macron apparaissait sur tous les écrans, sur Twitter, trois hashtags ont émergé. Hashtag législative 2022, suivi de très près par hashtag Macron démission et enfin hashtag Mélenchon à Matignon. Ce qui veut dire que sur les réseaux sociaux, on était déjà sur la suite de la campagne.
Mais est-ce qu'on sait comment les internautes ont suivi les résultats?
Alors là, vous avez eu un large choix. Vous pouviez faire très classique avec le youtubeur star politique Hugo Décrypte, installé sur un plateau, un peu comme à la télé. Hein. Mashup, ça a très bien marché. 300 000 viewers en live, c'est nettement plus qu'au premier tour. D'ailleurs, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé à 20h sur la chaîne d'Hugo Décrypte.
On va avoir un décompte qui va s'afficher en grand écran. Les résultats dans très peu de temps. C'est en l'occurrence Emmanuel Macron qui est élu président de la République avec près de 58% des voix.
Voilà, donc ça ressemble beaucoup à la télévision et à la radio.
C'est assez classique, oui. Quoi.
Voilà, sauf que c'est Twitch. Alors la différence, c'est que Twitch, vous pouvez créer de l'interaction. Hein. Plus de 8000 personnes ont échangé pendant toute la soirée sur le chat de la chaîne. C'est une vraie réussite. Autre manière de suivre la soirée, être sur le terrain. Et c'est ce que proposait le tout jeune média Fast Info. L'idée, faire suivre les résultats en story Instagram. Donc je remets tout le monde à niveau. Les stories, c'est ces petites vidéos de 15 secondes. Je vous en prie, 15 secondes qui disparaissent au bout de 24 heures. Sur Fast Info, on était donc au milieu des militants. Écoutez Thomas, au QG de Marine Le Pen, après la défaite.
Beaucoup de déception ici forcément. Le visage d'Emmanuel Macron a été sifflé lorsqu'il est apparu à l'écran. On a même entendu, hein, ça va être la merde pour 50+.
Voilà, hein. Bon, ces stories ont été visionnées plus de 5000 fois chacune, preuve que la politique attire. Quand Fast Info s'est lancé il y a 2 ans, leur story plafonnait maximum à 1500 vues.
Bon, du plateau, des directs, internet, ça ressemble quand même beaucoup à ce que font les médias traditionnels, enfin à nous.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais il y a eu l'innovation, on le doit à Arte par exemple, qui a créé une fiction au milieu du réel, je vous explique, c'est l'histoire de deux frères que tout oppose, même leur vote, ils sont suspendus à cette heure fatidique, 20h, et l'annonce du nouveau président. Tout a été filmé en direct et en plan séquence, fallait pas se planter, un format hyper original et qui a super bien marché, selon les équipes d'Arte, 70 000 vues en direct, c'est un vrai carton, voilà. Pour finir clair, un constat pas flatteur pour le numérique. Où sont les femmes? C'est la question qu'on a pu se poser toute la soirée. On fait souvent le reproche à la télé d'être en retard sur sa petite sœur du digital. Une chose est sûre, il y avait la parité à la télévision. Là où, et j'ai vraiment cherché, croyez-moi, il n'y avait aucune fille qui intervenait sur nos écrans de téléphone portable ou de tablette. Voilà donc, selon moi, une piste d'amélioration pour 2027.
Merci, ben voilà qui est dit. Vous avez bien raison de le souligner. On va peut-être passer au programme de la semaine à venir. On a dit les législatives. C'est dans 6 semaines maintenant, le 12 juin. Deuxième tour une semaine plus tard, le 19 juin. Vendredi, donc Emmanuel Macron était dans les Hautes-Pyrénées. Il a dit souhaiter un retour au calme et à la concorde après la bataille de la présidentielle. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Il a parlé d'une phase de décantation.
France Inter. Un dimanche de campagne. Claire Servageant.
La fin de ce mandat est au 14 juin. C'est le 14 mai, il y aura un moment d'investiture. Donc je pense qu'il faut terminer d'abord ce mandat. Donc on est dans une phase, si je puis dire, de décantation. Il y a une équipe qui termine ce mandat et puis l'investiture est en fait. Pouvoir se reprojeter, il y aura un temps démocratique avec les législatives, mais tout de suite se reprojeter vers des décisions avec en effet des nouveaux visages. Il y aura des éléments de continuité, des éléments de renouveau.
Un temps démocratique, je précise que c'était Simon Le Baron qui a recueilli ses propos. Un temps démocratique, on a l'impression que le président minimise les législatives ou je me trompe?
Il veut rester maître des horloges. Sauf que là, la montre est en train de tourner plus vite qu'il ne l'avait peut-être prévu. Je ne sais pas combien va prendre ce moment. Je suis incapable de vous dire l'agenda présidentiel politique de la semaine qui vient, à part qu'on devrait avoir, comme disait Ludovic, les premiers éléments sur les accords au sein de la majorité entre La République En Marche, Horizon d'Edouard Philippe, le Modem, etc. Ça va commencer à perler cette semaine. Parce que je vous rappelle que c'est le 20 mai à 18h, il est trop tard pour pouvoir être candidat aux élections législatives. Donc c'est vraiment la semaine
décisive. On ne dépose pas les candidatures entre le 20 et le 26,
hein. Non, entre le 16 et le 20.
Ah, entre le 16 et le 20.
Donc c'est la dernière semaine pour être prêt à faire campagne, c'est maintenant là, il faut vraiment mettre un coup de collier. Et donc, phase de décantation, pendant combien de temps encore? Et puis avec quel signal politique envoyé via Matignon? On a la fiche de poste, on a le portrait robot du Premier ministre, on n'a toujours pas le nom.
Ludovic Vigogne.
Non.
Sur le Premier ministre, je ne vais pas vous demander le nom.
Mais... Non, je ne saurais pas quoi vous dire d'ailleurs, je ne reprendrai que les noms qui circulent, je n'ai pas la réponse plus que d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, il a une équation extrêmement compliquée à résoudre. Il doit à la fois trouver un Premier ministre qui incarne quelque chose, qui donne un peu d'élan, parce que la mission quand même du Premier ministre, c'est de gagner les législatives. Remettre le visage d'Emmanuel Macron sur les affiches des candidats marcheurs comme en 2017, ça marchera moins bien que la fois précédente. Donc il y a vraiment besoin quand même qu'il y ait un moment donné de donner un peu d'enthousiasme, de dynamique dans cette réélection qui pour l'instant est désenchantée. Et en même temps, il est assez contraint parce que Emmanuel Macron, il doit gagner ses législatives et donc les gagner, ça veut dire s'adresser d'abord à son électorat de centre-droit. C'est celui-là qu'il faut mobiliser. Et donc, ça contraint ses marges de manœuvre. On entend circuler certains noms de personnalités de gauche et tout ça. Mais est-ce que ça peut pas être rédhibitoire pour certains électeurs d'Emmanuel Macron? Il faut pas oublier que l'électeur de base d'Emmanuel Macron, c'est les plus 65 ans, c'est les gens qui vont bien, c'est la France qui va bien, c'est plutôt la France de l'Est, des gens qui votent plutôt au centre droit, et donc c'est à ces gens-là qu'il doit trouver une incarnation qui va les mobiliser, qui va donner envie de voter pour les candidats qui le représenteront.
Encore un mot par rapport au calendrier. Est-ce qu'il y a une date pour la nomination du Premier ministre?
Non, Yael le disait en début d'émission, la fin du mandat c'est le 13 mai, donc on imagine qu'autour de cela il y aura un nouveau Premier ministre. Le 4 mai, visiblement, il y aura un ultime Conseil des ministres, hein, puisqu'on a compris que celui de mercredi dernier n'était pas le dernier. Qu'est-ce qui se passera exactement dans la foulée? On sait que le 8 mai, il y a les cérémonies de la Deuxième Guerre mondiale, que le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il veut écrire une histoire? On verra.
Oui, chez les macronistes, ce qu'on dit, c'est que le fait qu'ils prennent le temps comme ça, c'était aussi pour que les Français voient les deux blocs d'opposition se déchirer publiquement pendant que lui temporise, hein, un peu en sphinx comme ça. Il voit la gauche se déchirer, il voit le RN et Zemmour se déchirer. Mais c'est pas ce qui se produit à gauche. C'est ça la nouvelle donne, à mon avis, de ce 1er mai pour lui, et qui va peut-être l'obliger à accélérer ou à revoir sa stratégie, c'est que c'est pas ce qui se produit à gauche en ce moment. Alors oui, sur la question européenne, il y a des divisions, mais s'il y a un accord en début de semaine, le 3 mai, avec les quatre partis de gauche, c'est pas la même histoire.
Sur l'histoire du Conseil des ministres, pardon de m'y arrêter une seconde, mais c'était un gag ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils y sont tous allés en pensant que c'était le dernier, ils se prenaient en photo et finalement ils en sont sortis.
Bruno Le Maire a instagrammé, je parle sous contrôle d'Alex.
Alex Darmont.
Son dernier conseil, c'était pas le dernier.
Non, et surtout que c'était impressionnant parce que vous aviez tous les ministres et tous les secrétaires d'État, c'est-à-dire que c'était vraiment une photo de famille générale. Et ils n'ont pas l'impression aujourd'hui, mais tout de suite après, hein. C'est-à-dire que 10 minutes après le dernier conseil des ministres, ils nous disaient tous c'est peut-être pas le dernier, en fait, au final. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est l'improvisation totale.
Le maire a changé la légende de sa story Instagram.
Voilà, exactement, c'est ça.
Il n'est pas impossible, sans Claire occuper le terrain sur la gauche, parce que je ne voudrais
pas. Non, mais on a tout mélangé, c'est pas grave, allez-y. Voilà.
Mais je pense qu'il y a, au sein de la majorité, une surprise face à ce qui se passe à gauche. Et en fait, là, je viens à l'instant de recevoir un message donc du porte-parole de Fabien Roussel qui me dit nous avançons positivement, parce qu'il m'a entendu dire oh là là, mais il y a des soucis entre les communistes et les insoumis, et il m'envoie un message en disant non, tout va bien, on va y arriver, nous voulons une issue positive. Donc je pense que ça, et du coup le 3 mai, cette journée, évidemment dans les médias nous allons en parler, et ça va être important, et annoncer un Premier ministre à ce moment-là, je pense que ce n'est pas le moment idéal, et qui sait si ce n'est pas pour cette raison-là qu'il y a pu y avoir un petit décalage.
Peut-être aussi qu'Emmanuel Macron se dit que cet accord peut lui dégager quelques marges de manœuvre à gauche. Oui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des socialistes, des grands-mères socialistes, qui seront complètement en désaccord avec ce qui est en train de se passer, et qui accepteront ce qu'ils n'auraient pas, d'entrer au gouvernement, ce qu'ils n'auraient pas accepté il y a quelques jours, n'imaginant pas cette situation, par exemple.
Sur les législatives, Ludovic Vigogne, Emmanuel Macron supervise absolument tout ce qui se passe ou pas?
Bien sûr, oui, bien sûr. C'est lui qui donnera l'investiture des 577 candidats de la majorité. Alors, il y en a qui seront, il y a une bonne partie qui seront chez les députés sortants macronistes, qui seront reconduits automatiquement. Et puis, il y a d'autres cas de figure qui seront plus difficiles à trancher, notamment quelle part du gâteau va-t-il laisser à Édouard Philippe? On a bien vu cette semaine que Édouard Philippe s'étonnait de l'absence de négociation au sein de la majorité. On entend des mots peu aimables du côté de l'Élysée vis-à-vis de l'ancien Premier ministre, où on explique que Édouard Philippe n'a qu'à envoyer des candidats uniquement dans des circonscriptions de reconquête, que l'équilibre, les grands équilibres de la majorité tels qu'ils avaient été conçus en 2017 n'ont pas à être remis en cause. Édouard Philippe ne l'entend pas de cette oreille. Il va y avoir un vrai bras de fer qui s'engage, hein, qui va durer 15 jours. On verra quelle en sera l'issue. Ce qui est sûr, c'est que dans ces moments-là, Édouard Philippe est quelqu'un d'assez déterminé. Il a beaucoup préparé cette échéance. Il savait très bien que les négociations allaient être extrêmement compliquées avec Emmanuel Macron. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en 2017, par exemple, quand il a été nommé, Emmanuel Macron lui avait dit « Vous prendrez Nicolas Revel comme directeur de cabinet ». Édouard Philippe a dit non, ce sera Benoît Ribadeau-Dumas, et c'est Emmanuel Macron qui a cédé.
Il nous reste même pas une minute, alors vous allez avoir chacun 10 secondes pour nous dire qu'effectivement, ce qui vous paraît le plus important à surveiller la semaine qui vient, Alex Darmont.
C'est le choix de ce Premier ministre, parce que je pense qu'en fait, il ne l'a toujours pas trouvé. Il le cherche, il reçoit des gens, il a eu des refus, ça c'est certain. Donc le choix de ce Premier ministre va être important.
L'effet union de la gauche, si l'accord est fait d'ici au 3 mai, et ses conséquences, évidemment, sur la recomposition au centre-gauche.
Élodie Forêt.
L'interview d'Éric Zemmour demain sur BFM, il va devoir dire si oui ou non il est candidat aux législatives.
Sophie de Ravinel.
Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire d'original, sinon cette journée. Attendre cette journée du 3.
Et la fumée blanche.
Absolument, la fumée rouge, verte.
La fumée de toutes les couleurs. Merci, merci mille fois à tous. Il est 18h58 et 30 secondes.
Ne vous résignez pas.
Nous lançons ce soir la grande bataille des législatives.
Le troisième tour commence ce soir.
Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
Vive la République, vive la liberté.
Vive l'écologie,
vive la France.